Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous accueillir, même si évidemment c'est à distance, à l'École des Ponts Paris Tech, dans notre bel amphi Cauchy, et puis pour notre conférence sur les mesures de financement de la transition énergétique. Je crois que ça témoigne de l'élargissement progressif des disciplines qui sont enseignées à l'école. Notre conférence porte en effet sur un sujet stratégique aujourd'hui en matière d'économie qui est le financement de la transition énergétique. Et c'est dans le cadre des réflexions sur les mesures de financement de cette transition énergétique qu'est apparue la notion de finance verte. En effet, si la transition écologique, je crois, est aujourd'hui une évidence pour la plupart, il reste encore à trouver les moyens de la mettre en œuvre, tant du point de vue des investisseurs, des entreprises, des banques que de la société civile, un grand nombre de questions se posent quant aux relations entre finance et développement durable. Aborder la finance verte soulève également des interrogations de fond, comme la définition de ce qui est un projet vraiment pertinent en matière de transition écologique et d'environnement, en faisant appel à une expertise pluridisciplinaire. Au-delà, ce sujet nous amène à reconsidérer en général du système économique et financier actuel, vers une adaptation à une temporalité de long terme et à des enjeux qui sont plus vastes qu'auparavant. Afin de répondre aux besoins des milieux professionnels, l'École des Ponts a souhaité inscrire pleinement ses enseignements dans la formation d'ingénieurs depuis la rentrée 2020. Si la finance est enseignée à l'école depuis un certain temps, au milieu du 20e en gros, ce nouveau cursus d'approfondissement doit permettre aux ingénieurs de disposer des outils scientifiques, de la compréhension des mécanismes physiques pour évaluer les projets d'investissement. Cette formation répond également à un intérêt soutenu des élèves eux-mêmes qui sont sensibilisés à la lutte contre le changement climatique et qui nous interpellent sur les enseignements de l'école. Nous avons conçu le programme de cette dernière année pour permettre une approche pluridisciplinaire du sujet, tant du point de vue de la technique financière que des sciences de l'ingénieur, en rassemblant toute l'expertise des laboratoires de l'école et l'expérience du terrain de nos partenaires. Franck Bancel, le président du département sciences économiques, gestion finance, a piloté ce nouveau cursus que nous proposons à nos élèves ingénieurs, sur lesquels nous pouvons être fiers d'avoir été pionniers, même si depuis un certain nombre d'écoles nous emboîtent le pas. En nous mettant dans une situation exceptionnelle, la crise du Covid nous a d'autant plus incités à nous interroger sur notre avenir. Aujourd'hui plus que jamais, il apparaît donc crucial de partager les connaissances et les avancées scientifiques pour avancer ensemble sur le chemin d'une société résiliente et durable. Et c'est pourquoi nous avons souhaité organiser cette conférence en invitant des personnalités aux profils variés qui ont en commun d'avoir engagé des travaux, des réflexions sur la finance verte. La transition énergétique nécessite des investissements très importants dans de nombreux secteurs, l'énergie, le bâtiment, l'agriculture ou encore les transports, et il y a urgence. Le rapport du GIEC de 2019 nous indique que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les ressources financières consacrées aux activités vertes sont largement insuffisantes, et les investissements dans les projets à forte intensité carbone sont encore trop élevés. Donc la mise en œuvre de cette transition suppose que l'industrie financière se mobilise rapidement pour relever un certain nombre de défis. Je remercie nos intervenants qui ont accepté de partager avec nous leurs réflexions à travers trois tables rondes qui traiteront de trois des défis qui se posent aujourd'hui à l'ensemble des acteurs. Le premier défi vise une remise en cause des mesures de performance, des mesures d'incitation ou de gestion du risque habituellement utilisées par les financiers. La transition énergétique ne peut pas reposer sur le seul critère de rentabilité financière usuel. Dès lors, comment doit-on prendre en compte les externalités? Quels sont les indicateurs financiers et environnementaux suivis par les entreprises lorsqu'elles décident d'investir? Ces indicateurs sont-ils compatibles? Est-ce qu'il y a une hiérarchie de ces critères? Ce sera le sujet de notre première table ronde. Un autre défi consiste à créer et diffuser les nouveaux instruments de financement de la transition. Et la deuxième table ronde nous invite précisément à inventorier ces outils, notamment en direction des pays en développement, pour les accompagner dans la mise en œuvre de stratégies bas carbone. Le troisième défi auquel nous nous intéresserons aujourd'hui est posé par la régulation. La régulation financière doit-elle prendre en compte le risque climatique ? De nombreux régulateurs se sont mobilisés en ce sens dans le cadre du réseau pour le verdissement du système financier en 2017. La Commission européenne s'est penchée sur le sujet en 2019. Notre troisième table ronde a vocation à éclairer cette question. Certains intervenants enseignants de ce cursus ont également été sollicités par Franck Bancel pour contribuer au nouveau numéro de transition, mettant en valeur l'intérêt de l'école pour les évolutions de la finance face aux défis du changement climatique. Et je voudrais donc remercier doublement ces intervenants, ces enseignants, par leur contribution à transition. L'ensemble de ces contributions, nous avons une vingtaine d'auteurs aux profils variés, chercheurs, professionnels, jeunes diplômés, coordonnés par Franck, donnent accès à leurs travaux, qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, et d'ailleurs sur un sujet de pointe dans cet espace de diffusion des connaissances scientifiques que constitue cette revue. L'école a souhaité ainsi renouer avec l'esprit des Annales des ponts et chaussées qui paraissaient et qui est paru de 1831 à 1999. Ces annales ont donné accès aux travaux scientifiques et techniques des grands ingénieurs des deux derniers siècles et nous avons souhaité élargir les contenus. Dense, approfondi, précis, les articles se destinent à un public éclairé, la communauté scientifique et technique, mais aussi académique et professionnelle. Nommer cette revue « Transition » était une évidence pour une grande école du ministère de la Transition écologique. Mais au-delà du clin d'œil, le développement durable est au cœur des activités menées à l'école, que ce soit dans les enseignements, dans la recherche ou les projets dans lesquels l'école s'implique. Voilà, nous espérons ainsi que tant cette conférence que ce numéro de transition sauront nourrir votre réflexion, notre réflexion, et que ces travaux participeront à la progression de la transition écologique et de ses financements. Merci.
Bonjour, je suis Franck Bancel, président du département SEGF. Et je voudrais dire quelques mots introductifs pour cette première conférence. Tout d'abord, remercier les personnels de l'École des Ponts qui ont très largement contribué à l'organisation de cette manifestation. Je pense à Fabrice, Ali et Morgane. Et remercier aussi tous les services de l'école qui se sont impliqués dans ce projet. Je voudrais rappeler également que vous pouvez poser des questions à travers le chat et que nous relayerons ces questions en fin de table ronde, ce qui nous permettra d'avoir un échange suite aux différentes interventions. Donc, comme l'a souligné Madame Sophie Mougard, la première table ronde s'intéresse à la question de la relation entre la performance financière et la performance durable. Et nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants de premier plan sur ces sujets. Monsieur Thierry Déo, qui est président de Meridiam, Madame Patricia Criffaut, qui est professeure à l'École Polytechnique, ainsi que Monsieur Yann Kervigno, qui est directeur adjoint du pôle de formation à l'action publique de l'École des Ponts et chercheur associé au CIRED. La table ronde va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, Monsieur Déo et Madame Criffaut vont présenter les pratiques des investisseurs et les innovations récentes. Ensuite, Yann fera une mise en perspective du point de vue de l'action publique et le débat se poursuivra ensuite entre eux. Merci à tous.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame Goulard, merci beaucoup, Franck, pour ces quelques mots d'introduction et pour cette invitation, surtout à cette table ronde sur le thème de la performance financière et de la performance durable et comment concilier les deux. Alors, cette question, elle est éminemment intéressante pour les économistes et plus largement pour l'ensemble de la communauté qui s'intéresse aux enjeux financiers, extra-financiers. Mais elle a connu un regain d'intérêt, elle a atteint un certain niveau de maturité déjà, mais elle a connu un regain d'intérêt particulièrement important ces dernières années autour de la notion de la mesure d'impact. La mesure d'impact, qu'est-ce que c'est? De manière assez simple, c'est de répondre à la question suivante: quels sont les impacts extra-financiers ou les impacts durables des investissements qui ont été réalisés? Donc c'est une question qui est particulièrement prégnante dans la littérature et le mouvement sur l'investissement socialement responsable, ce qu'on appelle l'ISR, qui est un placement qui vise à concilier donc à répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui dans la table ronde, concilier performance économique et puis impact social et environnemental en finançant des entreprises, des entités publiques qui contribuent au développement durable. Alors, l'ISR, c'est un domaine en pleine expansion. Un dollar sur neuf était investi dans l'ISR en 2012. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 sur 3 ou 1 sur 5 début des années 2020. Donc, il y a eu une grosse expansion. Alors, ce qui est intéressant pour la question de la performance durable, c'est que la motivation des investisseurs, pourquoi est-ce qu'ils prennent leurs décisions, elle n'est pas neutre, parce que les informations non financières, elles ne vont pas du tout être traitées de la même manière selon les buts qui sont recherchés. En gros, on a l'habitude de distinguer ce qui relève de l'intégration ESG, c'est-à-dire l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans les processus d'investissement traditionnels, de l'investissement à impact. Donc l'intégration ESG, c'est l'objectif ici, ça va être de mesurer l'impact des facteurs ESG sur les flux financiers de l'entreprise. Donc la matérialité d'un facteur va se traduire par une variation du chiffre d'affaires. Si vous avez une bonne ou une mauvaise performance environnementale, ça aura ce type d'impact-là, variation des charges ou des investissements. Et là, c'est l'entreprise qui est considérée comme le système impacté. Mais la mesure d'impact, c'est totalement différent. Ça renverse l'angle d'analyse, puisque ça cherche à mesurer l'impact des activités des entreprises sur les enjeux ESG eux-mêmes, pas sur les enjeux financiers, mais sur les enjeux environnementaux, sociaux, indépendamment de la matérialité financière. Donc cette différence, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle va permettre d'évaluer de manière très différemment un même facteur ESG en termes de risque et en termes de performance. Je vais prendre un exemple et puis on pourra peut-être revenir dessus après dans la discussion si besoin, mais si on prend les émissions de gaz à effet de serre, c'est un bon exemple où on peut faire cette distinction entre intégration ESG versus investissement impact. La même tonne de gaz à effet de serre, son impact va être le même quelle que soit la localisation de l'émetteur. Mais par contre, elle n'aura pas du tout le même impact financier en Europe où les pays vont être soumis au système des quotas et puis dans un pays en dehors de l'Europe qui n'est pas soumis au même système. Donc la matérialité financière d'un enjeu ESG n'est pas le même selon le pays. Donc du coup, un analyste crédit qui veut attribuer une probabilité défaut à une entreprise qui émet trop de gaz à effet de serre va devoir tenir compte du prix actuel du carbone en Europe pour évaluer l'impact de la stratégie d'intégration ESG. Mais un analyste extra-financier qui veut, lui, à l'inverse, mesurer l'impact social de cette même tonne de carbone, lui, ça ne va pas être le prix actuel du carbone sur le marché ETS, mais plutôt le coût social du carbone, en s'appuyant sur ce qu'on appelle les valeurs tutélaires du carbone, par exemple celles qui sont déterminées dans la commission Kinney. Alors je sais que je ne vais pas anticiper sur ce que dit Ryan tout à l'heure, on pourra revenir là-dessus, mais voilà, elles sont pas le prix du carbone sur le marché européen n'est pas au même niveau que le coût social du carbone, et donc la matérialité n'est pas du tout évaluée de la même manière. Donc un deuxième exemple qui peut être assez intéressant de ce point de vue-là, hein, quand on veut distinguer ce que c'est que l'impact extra-financier, ça va être la préservation de la biodiversité. Ça, c'est un sujet qui, souvent, en fait, est mal pris en compte, voire négligé, parce que on n'arrive pas à évaluer sa matérialité financière. Donc, si on se limite à la question de l'intégration ESG, on ne fera jamais grand-chose de ce côté-là. D'où l'intérêt d'avoir, et c'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour la notion d'investissement impact, de se tourner vers des démarches qui vont avoir une approche beaucoup plus systémique et qui vont regarder l'impact sur les enjeux ESG eux-mêmes et pas simplement leur matérialité financière. Alors une autre question importante dans ce sujet sur la performance financière, extra-financière, c'est de s'interroger sur les critères qui sont poursuivis par les investisseurs. Quel type de critères ils prennent en compte dans leurs décisions d'investissement ? Et là, on a un vrai challenge qui est la question de la disponibilité des données. Donc tout à l'heure, j'évoquais les critères ESG, les trois grands piliers, environnement, social et gouvernance. On voit que c'est déjà assez multidimensionnel d'un pilier à un autre, hein, c'est pas vraiment comparable, mais même au sein même du pilier environnemental, j'ai mentionné tout à l'heure les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, la pollution, les ressources en eau, etc. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux à prendre en compte et la collecte de données, c'est le premier challenge de la mesure d'impact. Je vais paraphraser ici la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui a appelé il y a un mois au sommet du G20 à définir des critères ESG qui soient vraiment précis et harmonisés pour les entreprises au niveau international, vraiment pour encourager ces investissements à impact dans les infrastructures propres pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans les accords de Paris. Donc on voit que c'est un sujet qui préoccupe la communauté internationale de manière assez forte, parce que la question de la disponibilité des données est importante. Alors, pour vous donner quelques exemples, et puis après je pense que je passerai la parole à mes collègues, sur le choix des indicateurs de performance environnementale, ou sociale ou de gouvernance, c'est quand même l'environnement et le climat qui sont au cœur des priorités. Donc c'est les domaines qui sont les plus communément partagés par les investisseurs privés. Donc par exemple avec des mesures de type empreinte carbone qui semblent faire consensus, sachant qu'on se limite souvent au scope 1 et 2, mais encore pas beaucoup au scope 3. D'autres indicateurs sont possibles pour prendre en compte le climat, les productions d'énergie renouvelable, les revenus des activités vertes, etc. En matière sociale, on a des indicateurs qui existent. Il y a une commission, une dizaine d'années, Stiglitz & Fitoussi avait déjà proposé de creuser les enjeux sociétaux autour des caractéristiques type mode de vie, culture, communauté, système politique, santé, propriété, etc., peur, aspiration. Donc on a des principes, mais on n'a encore pas d'unanimité sur ces enjeux-là. Et puis le dernier pilier, c'est un pilier qui est quand même très important, c'est la gouvernance. En fait, c'est celui sur lequel on a le plus de travaux. Il n'a pas fallu attendre les débats sur la performance extra-financière pour s'intéresser à la gouvernance. Donc de nombreux indicateurs sont disponibles autour des compositions des conseils d'administration, rémunération des dirigeants, lutte contre la corruption, pratiques anticoncurrentielles, etc. Donc c'est peut-être celui qui est le plus consensuel. C'est le pilier le plus consensuel et le plus ancien finalement dans l'analyse de la mesure d'impact. Donc voilà, pour terminer et passer la parole ensuite à mes collègues, c'est vrai que la démarche de mesure d'impact, c'est quelque chose qui renouvelle considérablement les débats sur le lien entre performance financière, performance extra-financière. Elle se heurte quand même un certain nombre de difficultés qui consistent à évaluer la matérialité de l'impact, que ce soit une matérialité financière, qui on a vu, c'est la première marche et loin d'être la suffisante dans l'escalier, ou que ce soit la matérialité extra-financière qui est celle qui pose le plus de défis en termes de données disponibles et de réel investissement des acteurs privés dans ce domaine. Voilà, je vais peut-être passer la parole à M. Déo.
Merci et bonjour à tous et merci de m'inviter à cette table ronde. Alors, je vous parle à la fois comme un porteur de la transition au point de ma propre société qui est Méridiam, puisque nous investissons dans tous les métiers que cette école enseigne, de la transition écologique, de la mobilité, des équipements publics et de l'aménagement du territoire, mais aussi en tant que président de Finance for Tomorrow, qui est le cluster de la finance durable à Paris Europlace, donc la place de Paris. Peut-être justement pour, grâce à cette transition sur l'impact, attaquer tout de suite le sujet, un tout petit peu d'historique pour parler de finalement des investisseurs finaux, ceux qu'on appelle les asset owners et ceux qui finalement possèdent tous les actifs dans le monde, qui sont aujourd'hui, je dirais, à la pointe de ce mouvement vers l'impact et de ce mouvement vers la prise en compte de la performance extra-financière dans leurs décisions d'investissement. Ils sont à la fois sous la pression d'une régulation, mais qui a plutôt suivi que précédé dans beaucoup de cas, mais surtout sous la pression de leurs propres parties prenantes. Les asset owners sont souvent des assureurs, sont souvent des fonds de pension, mais tous ces gens-là gèrent l'argent d'administrés qui leur confient de l'argent. Voilà. Donc, ils doivent répondre à une attente sociétale forte, de désir d'avoir un impact positif à travers ces investissements. Et donc, ça s'est traduit depuis une bonne dizaine d'années, et puis amplifié depuis les accords de Paris par un véritable engagement des grands investisseurs institutionnels vers l'impact positif et la prise en compte des données extra-financières dans leurs décisions d'investissement. Alors, peut-être un premier point, c'est qu'en effet, sur le long terme, je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui, qui est peut-être moins public mais plus réelle, au sein des comités, communautés d'investisseurs, que la mesure de l'impact sur le long terme est indispensable. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que l'enjeu, notamment pour la place de Paris, c'est que l'impact devienne mainstream, si je peux utiliser ce mot bien français, mais que toute la finance devienne de la finance à impact. Et c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on n'oppose plus la performance financière à la performance durable ou non financière, mais que cela fasse un tout. Alors, il y a eu un certain nombre d'études, parce que pour justifier les décisions d'investissement, on fait beaucoup de benchmarks, et aujourd'hui, on rêve encore de trouver la clé de la corrélation entre le durable et la volatilité des investissements, qui intuitivement font sens, mais pour lesquels on n'a pas aujourd'hui suffisamment de données pour en faire des théories suffisamment fortes. En tout cas, le marché et les investisseurs portés par à la fois cette intention d'impact positif, qu'il soit sur un niveau environnemental, social ou gouvernemental, ou de gouvernance, est totalement important. Alors le deuxième point dans ce premier point que je voudrais faire, c'est le fait qu'aujourd'hui on a un cadre qui est souvent ignoré, ou sous-estimé par la puissance du travail qui a été fait, c'est celui des objectifs de développement durable. Alors, Madame parlait un peu des indicateurs et des comparateurs. Le travail fait finalement par l'ONU et ses objectifs de développement durable font partie intégrante de l'accord de Paris, permettent de couvrir la quasi-totalité des impacts dans la société. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est engagé pour 2030 à ces objectifs de développement durable. Il y a plusieurs centaines d'indicateurs. Après, on peut trouver des proxys si ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais dans ces 17 objectifs et sous-objectifs qui suivent derrière, on a une capacité de trouver justement cette mesure de l'impact, ou en tout cas de la qualifier et de la quantifier. Alors, ça c'est mon deuxième point, c'est qu'il est fondamental et il est possible d'approcher la chose de façon scientifique et de mesurer cet impact. C'est d'ailleurs ce que nous avons choisi de faire chez Meridiam. On a mis 3 ans pour bâtir un outil, notamment avec le soutien d'un comité scientifique, qui nous permette de façon contextualisée, point important qui vient d'être d'être mentionné, un aéroport à Madagascar qui représente 2% du PIB n'a pas le même impact que Charles de Gaulle qui ne représente qu'un petit pouillem de la production nationale brute de la France. Et donc la contextualisation, donc pour arriver finalement presque dans une analyse adimensionnelle de l'impact, mais permet cette quantification et de façon relativement scientifique seulement. Il faut gérer beaucoup de données, des données physiques, des données économiques, des données financières des fois. La production d'un port souvent passe, ou son impact passe par la mesure des données douanières de collecte des taxes pour certains pays, et ça permet de quantifier l'impact de ces infrastructures en particulier, mais de ces projets, et de façon normée. Et donc, nous avons développé une méthodologie que nous avons d'abord appelée SIMPLE. Et c'est pas parce que c'est simple, mais ça veut simplement dire « See progress, improve performance », qui permet aujourd'hui, de façon normée, sur une échelle de 0 à 5, finalement, pour chacun de nos projets, chacun de type d'investissement, de mesurer cet impact sur une même échelle. Donc, ce qui résout ce sujet de la contextualisation régionale et sectorielle de cet impact. Alors, il est très important, évidemment, d'intégrer ces méthodologies d'impact, et c'est pour ça que c'est important pour les investisseurs dans les processus d'investissement. C'est un vrai processus d'ingénierie de la décision depuis le début, dans les analyses préliminaires quand on prend les décisions d'investissement de façon préliminaire jusqu'à la fabrique de l'investissement, la fabrique du projet. Et c'est une ligne conductrice et une ligne rouge qui est très importante, notamment quand on parle d'infrastructures publiques de long terme, puisque c'est en fait la feuille de route que nous utilisons du début à la fin pendant 25 à 30 ans pour piloter les investissements. Donc on va au-delà de la simple volonté de mesurer l'impact, mais on se prolonge dans la capacité à améliorer cet impact dans la durée, notamment en prenant un certain nombre de mesures. Pour donner des exemples totalement concrets, quand vous êtes sur des autoroutes, vous avez de vraies capacités à redévelopper des zones, on peut même le contractualiser, ce que nous faisons par exemple en Autriche, de redévelopper des zones de biodiversité avec les terrains ou les vallées disponibles autour de l'autoroute, mais ça demande simplement un effort d'être en mesure de le faire, de le mesurer, et en lien avec les parties prenantes, notamment les concédants de ce type d'infrastructure. Donc ça, c'est pour la biodiversité, mais c'est aussi vrai sur la préservation des ressources et de l'énergie, puisque la plupart des infrastructures dites carbonées, comme peuvent encore l'être à cause du scope 3, les autoroutes ou les aéroports, ont tous un objectif aujourd'hui d'efficacité énergétique et de préservation des ressources, et surtout d'éviter les rejets et les déchets qui ne pourraient pas être traités. Voilà, donc ça vous donne un peu, je dirais, un peu d'espoir sur le fait que, avec de bons ingénieurs, finalement, on peut arriver à faire de bonnes méthodologies scientifiques, et l'impact, malgré l'immense masse de données qu'il faut gérer, et aujourd'hui on fait ça avec de la big data, hein, c'est pas à la main, c'est un peu difficile, on peut arriver à des choses qui couvrent suffisamment de territoire pour y arriver. Et pour finir, peut-être revenir un peu au travail de la place et au travail des régulateurs. D'abord, la France a toujours été pionnière en matière d'ESG. Mais comme moi, je qualifie simplement toujours l'ESG, l'ESG, c'est tout ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir un impact négatif. C'est un peu la volonté de la taxonomie européenne verte aujourd'hui, qui est le « do no significant harm ». Mais ça ne crée pas de l'impact positif. Ça évite de détruire notre bien commun. Mais pour améliorer et avoir un impact positif en matière extra-financière, il faut aller plus loin et justement rester dans cette mesure et cette création d'impact, parce que les deux vont ensemble. Donc la place de Paris, par ailleurs, sous l'impulsion d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, a voulu justement porter l'impact à un niveau où on puisse la généraliser, quelque part la standardiser, faire la maison de l'impact de la France, pour que toute la place financière, in fine, parle le même langage, puisse disposer d'outils fiables pour mesurer l'impact et puisse s'engager finalement dans des démarches positives d'investissement, qu'on parle de PME, qu'on parle de clients bancaires, qu'on parle d'infrastructures, vers plus d'impact, mais avec un vrai cadre de mesure. Et je rappelle encore, parce qu'on l'oublie trop souvent, que les ODD, c'est pas juste un gadget de l'ONU, c'est un outil puissant qui peut nous permettre d'avoir un langage commun en matière d'impact. Merci.
Merci pour ces éléments du coup qui restituent bien le contexte effectivement de l'évaluation donc extra-financière, la finance verte, donc du côté des acteurs privés. Et donc l'objet de mon intervention, elle est notamment de resituer, on va dire, le rôle des acteurs publics et resituer cet enjeu, on va dire, dans le contexte de l'action publique qui peut l'entourer. Alors, d'abord, mon intervention, elle portera principalement, donc essentiellement, même exclusivement, de la logique d'impact, qui a été évoquée comme un enjeu, un des enjeux majeurs, effectivement, concernant la finance verte. de sa mesure. Et je commencerai par évoquer donc ce qu'on fait du côté des acteurs publics. Parce qu'effectivement, on a un certain nombre de projets qui sont financés par le public. On a des politiques publiques aussi qui sont menées, qui peuvent avoir des impacts diversifiés. Et donc, on va avoir des démarches d'évaluation qui vont à la fois répondre à des exigences qui s'imposent aux acteurs publics comme aux acteurs privés, par exemple les études d'impact pour des projets d'aménagement, mais aussi des exigences qui sont plus spécifiques aux acteurs publics. Et donc, pour plusieurs raisons. Donc, il y a d'abord, on va dire, des objets dont les acteurs publics sont responsables. Je pense aux lois, aux stratégies. Je pense aussi, par exemple, à loi T verte, qui est donc une obligation émise par les acteurs publics, qui donc, du coup, doit faire l'objet, effectivement, de démarches d'évaluation des impacts et qui ont, du coup, donné lieu à l'élaboration de méthodologies pour pouvoir mieux approcher les impacts de ces dispositifs. On a aussi des outils intéressants du côté des acteurs publics parce que, on va dire, on demande aux acteurs publics d'agir dans l'intérêt général et d'avoir cette optique, on va dire, inclusive de l'ensemble des enjeux dans leur action. Et donc là, je pense notamment à une méthode, mais ce n'est pas la seule, qui est employée de diverses manières, c'est les méthodes d'évaluation socio-économique ou d'analyse coût-avantage. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a à la fois l'utilisation de ces méthodes qui va chercher à intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans des problématiques économiques. Et là, notamment, on va avoir tout ce qui répond aux méthodes d'évaluation qui sont normées par les méthodes de France Stratégie. Donc France Stratégie a élaboré finalement un guide qui permet de guider la méthode selon laquelle on conduit ces évaluations socio-économiques pour les investissements publics, dès lors qu'ils dépassent certains seuils. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces méthodes d'évaluation socio-économique, elles sont aussi employées par les acteurs publics plus sectoriels pour justement intégrer les enjeux économiques, prendre en compte les coûts potentiellement de certaines politiques plus sectorielles. Pour n'en citer qu'une, par exemple, la Haute Autorité de Santé utilise aussi des approches de ce type-là pour informer ces décisions, ces politiques publiques. Alors, mon propos, il sera de dire que finalement, ces méthodes ont permis de développer des outils et que ces outils peuvent être utiles aux acteurs privés. Et je vais le développer donc en deux points. D'abord, en évoquant donc la question des objectifs dont se dotent les acteurs publics. Et ensuite, je viendrai plus particulièrement sur le thème de notre table ronde, qui est celui de comment concilier les enjeux, comment essayer d'articuler ces enjeux de performance économique, financière, avec les enjeux, notamment environnementaux. J'élargirai un petit peu, mais je parlerai essentiellement effectivement des enjeux de la transition écologique, donc le climat, la biodiversité, pour élargir dans un deuxième temps. Alors, le premier point, c'est celui de relever donc, que les acteurs publics élaborent des objectifs, notamment des objectifs environnementaux, et que ceux-ci sont de plus en plus spécifiques et mesurables. Alors, pour donner l'exemple sur le climat, on a eu donc en 2015 l'accord de Paris qui a donné comme objectif donc, à la communauté internationale l'idée d'atteindre de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés et si possible 1,5 degré, étant entendu que les dommages seraient bien moindres si jamais on arrivait à atteindre cet objectif. Un autre objectif dont on parle peut-être un petit peu moins, en tout cas qui est peut-être moins connu dans cet accord, mais qui est associé, c'est celui d'atteindre la neutralité carbone dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc vous voyez qu'on a déjà, et j'y reviendrai, une logique d'objectif à deux niveaux, où on a un objectif sur l'état du climat, ce qu'on ne veut pas dépasser, mais aussi sur les pressions, sur les causes, finalement, les plus directes de ces changements. Alors, cet objectif, il est mondial et il est décliné au niveau national. Et ce qui est intéressant, c'est de noter donc, qu'en France, on s'est doté d'un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. C'est un objectif qui est plus ambitieux que la neutralité carbone dans la deuxième moitié du XXIe siècle, mais c'est aussi un objectif qui se justifie par un certain nombre de considérations dont on pourrait par exemple citer, parmi lesquels on pourrait citer la responsabilité historique de la France dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle. Donc ça c'est une des raisons qui justifie l'importance pour des acteurs comme la France d'être finalement dans les acteurs les plus ambitieux sur la scène internationale sur ces dimensions-là. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a une articulation entre échelles dans ce que je dis, donc ça c'est un point qui est important à noter. On a besoin d'articuler les objectifs entre échelles, mais par ailleurs, on a des objectifs qui sont issues de considérations qui peuvent être relativement complexes. J'en ai cité une, et je pourrais finalement élaborer assez longuement sur ces questions-là. Alors, pour aller sur un sujet qui est effectivement moins avancé, mais qui est tout aussi essentiel, les questions de biodiversité, on a effectivement des processus analogues, mais qui sont à des stades, on va dire, moins avancés. Un des enjeux de la prochaine COP, la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique, sera notamment d'aboutir à un cadre qui serait analogue à celui de l'accord de Paris, avec un objectif sur l'état qu'on souhaiterait pour la biodiversité mondiale, et ensuite une déclinaison sur les pressions. Donc ça, c'est un enjeu pour cette négociation, et un enjeu sur lequel donc des discussions sont très actives actuellement. Si on vient à la déclinaison, on va dire, des enjeux de biodiversité au niveau national ou sur les territoires, on a peut-être effectivement sur la biodiversité un enjeu de déclinaison, de contextualisation, comme ça a été dit, qui est peut-être d'autant plus marqué que, contrairement à la tonne de CO2 qui est émise à n'importe quel endroit sur Terre, va avoir des impacts qui sont notre partout. Une dégradation des milieux, une destruction d'habitat, selon là où elle a lieu, va avoir des impacts qui sont très différenciés d'un territoire à l'autre. Donc ça, c'est une raison, notamment une spécificité peut-être et une complexité associée à ces enjeux-là, mais qui appelle encore plus à cette exigence de contextualisation. Et alors, pour illustrer cette idée, cette thèse que je développe ici, que les acteurs publics élaborent des objectifs de plus en plus spécifiques et mesurables, on pourra par exemple relever, pour citer un milieu qui parfois peut être oublié, que dans le cas des milieux marins, en France, en 2019, des documents stratégiques de façade ont été publiés qui contenaient des objectifs environnementaux qui étaient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc qui correspondaient à cette précision qu'on attend des objectifs pour qu'ils puissent être opérationnels. Qui puissent être opérationnalisés et notamment traduits dans les dispositifs d'évaluation. Alors j'ai parlé du climat, j'ai parlé de la biodiversité, mais bien entendu les enjeux sont plus vastes et le cadre des objectifs de développement durable sont finalement ceux que les acteurs publics au niveau mondial ont mis en place de manière à être, on va dire, sur l'ensemble des enjeux. Et effectivement, comme ça a été dit, ces objectifs de développement durable ont ce rôle de fournir un cadre intégrateur dans lequel les principaux enjeux figurent ensemble et sont articulés. Donc voilà pour ce qui permet d'illustrer cette idée que du côté des acteurs publics, effectivement, on travaille sur cette formulation d'objectifs, notamment environnementaux, de plus en plus opérationnels et qui permettent du coup d'aussi traduire de manière plus concrète les défis auxquels nous faisons face. Alors j'en viens à la question de la conciliation. Lorsqu'on a un impact environnemental qui est mis en regard d'une création de valeurs économiques, eh bien, comment est-ce qu'on gère finalement potentiellement ce trade-off? Et ces trade-offs, ces compromis, ils ne vont pas s'exprimer uniquement entre économie et environnement. Parfois, on peut avoir des compromis même entre différentes dimensions de l'environnement. Si vous pensez aux énergies renouvelables, par exemple, aux éoliennes, si vous pensez même au chemin de fer, au secteur ferroviaire, on a des compromis à trouver aussi entre différentes dimensions de l'environnement. Et pour ça, on a besoin donc d'outils, effectivement, qui vont aider à prendre la mesure, finalement, de ces impacts et éventuellement de les mettre en regard. Et c'est vrai qu'on peut souvent être tenté d'adopter des logiques binaires, de classifier, etc. Mais on a aussi besoin de porter ces jugements avec plus de mesures, de rendre commensurables, finalement, des impacts qui peuvent être de nature différente. Alors je vais reprendre les deux exemples que je développais au niveau des objectifs. Ça me permettra d'illustrer en quoi ces objectifs aussi sont utiles, permettent d'aider à cela. Actuellement en France, on a effectivement la chance de disposer d'une valeur tutélaire du carbone, et donc ça a été évoqué par Patricia, et du coup c'est quelque chose qui est un outil utile, et qui est un outil utile pas que pour les acteurs publics. Ça c'est ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. Actuellement cette valeur est de l'ordre de 100 euros la tonne de CO2. Ce qui est intéressant à relever, c'est que lorsqu'on regarde les guidelines européens, par exemple, ou qu'on regarde les conclusions de commissions mises en place à des échelles plus importantes, par exemple au niveau mondial, on est sur cet ordre de grandeur aussi. Donc on a une certaine cohérence sur cet ordre de grandeur. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, cette valeur, elle est amenée à croître relativement vite, parce qu'on est, par exemple, sur le point de passage de 2030 à 250 euros la tonne. Donc c'est quelque chose qui est considérable. Et ce qui est important à bien voir, c'est que cette valeur, elle ne vient pas de nulle part, qu'elle a été élaborée avec une méthode qui permet de l'interpréter et de comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est ça que je voudrais aussi vous expliquer aujourd'hui. Le choix qui a été fait par la commission Kinec qui a élaboré cette valeur et qui l'a réactualisée en 2019, c'était de suivre une démarche coût-efficacité, c'est-à-dire de prendre comme point de départ les objectifs que s'était donné la France en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une révision en 2019, parce que la France ayant révisé son niveau d'ambition, il était devenu nécessaire de réviser effectivement la valeur qui permettait de rester cohérent avec l'ambition politique en matière de réduction de gaz à effet de serre. La manière dont cette valeur s'interprète, donc, c'est de bien voir que donc, il s'agit d'une valeur qui permet de voir le niveau d'effort qu'il est nécessaire de déployer pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que, pour donner une illustration, on va dire, de la manière dont on peut se la représenter, si un acteur va avoir un impact environnemental de l'ordre de 200 euros la tonne, enfin de 200 euros, pardon, de 2 tonnes, qui a une valeur de 200 euros pour une création de valeur économique inférieure. S'il ne fait pas cet effort, eh bien, pour atteindre l'objectif, il faudra qu'un acteur le fasse, un autre acteur, pour l'atteindre. Et cet autre acteur, donc ce que la valeur tutélaire va capturer, c'est finalement, ça va permettre d'estimer le coût pour cet acteur de cet effort qu'il va falloir faire pour atteindre collectivement cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Donc on voit qu'on a bien une externalité en fait. Collectivement, on doit atteindre cet objectif, et si quelqu'un ne le fait pas, alors un effort supplémentaire sera nécessaire ailleurs, et la valeur tutélaire permet de le refléter. Alors, ça permet à mon sens d'illustrer pourquoi cette valeur elle est intéressante aussi pour les acteurs privés, pourquoi elle a du sens aussi dans ces sphères-là. Cette explication elle me permet aussi d'amener une autre question qui porte plutôt sur les méthodes d'évaluation et de bien vous inviter à relever que cette méthode d'évaluation finalement elle est on peut la qualifier d'implicite, c'est-à-dire que on ne va pas évaluer les impacts directement, on ne va pas regarder quel dommage et combien quel est le coût associé à ces dommages. À la place, on considère que l'objectif a intégré ces arbitrages, ces questionnements-là. Et ce à quoi on s'intéresse, c'est comment atteindre efficacement cet objectif. Et cette logique d'évaluation implicite, elle a ceci d'intéressant qu'elle permet d'intégrer des valeurs relativement complexes. Et je vous invite à revenir à un élément que j'évoquais précédemment, qui est la raison pour laquelle la France s'est donné un objectif plus ambitieux que celui qui figure dans l'accord de Paris, à savoir d'avancer l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Les considérations qui sont derrière, si on se contente d'évaluer des impacts, les dommages, eh bien c'est très dur de les restituer avec des méthodes, on va dire, plus directes d'évaluation. Alors si je poursuis sur la biodiversité, là on est sur un sujet qui, on va dire, sur lequel on ne dispose pas de tout cet attirail que je viens de décrire pour le climat. C'est un sujet qui est plus complexe, qui est multidimensionnel, ça a été évoqué, qui a besoin peut-être d'être plus contextualisé aussi. Et donc simplement pour montrer un petit peu des pistes qui ont été un peu dégagées par les travaux tout de même qui ont lieu sur le sujet, on pourra relever que dès 2009, la commission Chevassieu-Louis, présidée par Bernard Chevassieu-Louis, dont la tâche était justement de proposer des valeurs de référence pour intégrer les enjeux de biodiversité dans les investissements, dans l'évaluation socio-économique des investissements publics, avait relevé donc la difficulté de la tâche, mais avait aussi relevé l'intérêt de telles approches, on va dire coût-efficacité, en tout cas qui évaluent de manière implicite les impacts. Je n'entre pas plus loin sur la biodiversité, on pourra en discuter s'il y a un intérêt pour ces questions-là. Peut-être pour conclure et rappeler certains des points qui me semblent importants dans les arguments que je viens de vous présenter, c'est que donc il y a du côté des acteurs publics un certain nombre de méthodes qui ont été développées, que ces méthodes, elles ont leur pertinence aussi pour les acteurs privés. Et il y a aussi donc du côté des acteurs publics, je dirais, une responsabilité plus particulière à renforcer la formulation d'objectifs qui soit cohérent, qui soit articulé entre échelles, qui soit suffisamment spécifique et mesurable pour pouvoir être opérationnalisé. Et là-dessus, donc, on a des progrès qui se font et puis des travaux qui sont très actifs sur ces questions-là. Mais il existe, donc il y a un grand nombre d'enjeux, il y a des difficultés qui peuvent se présenter. On est face à des enjeux qui sont complexes, avec une exigence d'ambition qui est elle aussi très importante. Et pour relever cet enjeu, on a besoin d'une responsabilité, on va dire, un sentiment de responsabilité élargi de l'ensemble des acteurs. Bien entendu, chaque acteur va plutôt être responsable de certains éléments dans l'élaboration des référentiels, des méthodes qui vont pouvoir aider à cette intégration. Mais l'engagement donc de l'ensemble des acteurs est absolument essentiel pour pouvoir relever les défis. Donc, je vous remercie. Alors, j'ai terminé ici. Je pense qu'on a terminé le tour de table. Et du coup, alors, Franck, est-ce qu'il y a des questions en ligne?
On devait vous réagir à votre dernier propos.
Ouais.
Alors, autant pour moi.
Je voulais réagir aussi.
Allez-y.
Peut-être pour revenir sur les méthodologies du public utilisables par le privé, je souscris totalement. Ceci dit, comme je dis toujours, le public peut mieux faire. Alors d'abord, le prix tutélaire du CO2, la courbe Stiglitz ou la courbe Kinné, évidemment en France on prend la courbe Kinné, et puis il y en a d'autres qui prennent la courbe Stiglitz, aujourd'hui n'a pas de caractère contraignant. Ce qui a une tendance à poser un problème de comparabilité quand les différents acteurs financiers utilisent ces différentes courbes. Alors nous qui mesurons la température de nos portefeuilles d'investissement par rapport à l'objectif des 2 degrés et mesurons justement l'impact financier à travers ces courbes, nous publions auprès de nos investisseurs l'impact sans prix de carbone et l'impact avec prix du carbone, dévalorisation. Parce que les investisseurs, notamment les investisseurs de long terme, sont confrontés vis-à-vis des sujets de développement durable et du climat par un sujet de valorisation qui est constant. C'est leur obsession de tous les jours. La question est de savoir si l'actif dans lequel ils ont investi vaut vraiment quelque chose dans 30 ans ou pas. Donc le sujet des stranded assets qui a été beaucoup travaillé par la Toulouse School of Economics et notre prix Nobel préféré, c'est une vraie préoccupation pour les investisseurs. Et donc, quelque part, le caractère contraignant d'une courbe du prix du carbone pourra aider à matérialiser finalement la prise en compte de ce sujet. Donc on le fait de façon volontaire, de montrer avec ou sans. Et puis il y a bien une différence dans les valos quand on met un prix du carbone sur les 30 prochaines années, voire les 50. Et donc ça, c'est important. Donc il me semble qu'il y a besoin de la boucle de partenariat sur ces outils et sur les politiques publiques à terme pour finalement avoir un retour assez pragmatique de la façon dont le marché peut utiliser ces méthodologies et peut les intégrer. Le marché, il faut toujours de temps en temps le contraindre. Mais il aime bien parce que ça donne un niveau d'égalité finalement dans le traitement. Même si souvent il se bat contre les contraintes, finalement il les aime bien. Mais ce partenariat est nécessaire. Et puis mon deuxième point, puis je vais m'arrêter là, c'est que notamment en France, je pense que l'État, dans ses politiques d'investissement et l'enjeu de EU Next Gen qui est aujourd'hui, doit s'appliquer ces méthodologies de façon beaucoup plus concrète, plus mesurée et de façon beaucoup plus transparente pour donner l'exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Je voulais réagir aussi sur la partie, et ça va être totalement dans la ligne de ce qui vient d'être dit, sur l'aspect un peu contrainte réglementaire. C'est un sujet absolument majeur en matière d'information extra-financière aujourd'hui. Les enjeux stratégiques de la réglementation sur la finance durable, on les connaît très bien en France. Vous avez dit tout à l'heure que la France était un peu à l'avant-garde de ces sujets, et c'est vrai, depuis les lois sur les nouvelles régulations économiques de 2001, les lois Grenelle 2, transition énergétique et croissance verte de 2015, loi énergie-climat de 2020, on s'aperçoit qu'effectivement, on a imposé des obligations de reporting extra-financier aux entreprises, d'abord cotées, puis non cotées, puis maintenant aux investisseurs. Et un sujet qui pose vraiment question pour les économistes, ces obligations de reporting, elles ne peuvent pas se substituer à la taxe carbone. Enfin, ça, il y a une espèce de consensus là-dessus. Et en même temps, on en a besoin de manière très forte, parce qu'on a besoin aussi de lutter contre le greenwashing. Donc en fait, on a deux outils qui sont complémentaires, qu'il faut absolument mettre en œuvre. C'est pas un hasard si, en début de semaine, la Commission européenne a publié sa nouvelle stratégie finance durable, dans laquelle elle veut renforcer la mobilisation des acteurs financiers. Ça, je pense que c'est un sujet vraiment important dans la mise en œuvre du Green Deal européen, mais aussi voilà, de la réalisation des accords de Paris. Et le sujet sur l'information extra-financière, il est vraiment crucial d'un point de vue réglementaire, en fait. Pas simplement du point de vue de l'engagement volontaire des acteurs à vouloir faire du reporting, à intégrer ces enjeux de matérialité. Et de ce point de vue, la taxonomie européenne, elle est vraiment un outil qui me semble important. Et j'aimerais bien avoir ton retour, d'ailleurs, Yann, sur ce sujet-là, du point de vue des acteurs publics. Parce qu'aujourd'hui, on dit pour les investisseurs que voilà, on veut mettre en place la taxonomie européenne. L'idée, c'est de mettre en place un langage commun pour la finance verte, pour orienter les flux financiers vers les activités vertes en évitant le greenwashing. Donc en gros, ça veut dire qu'une activité durable, elle doit démontrer qu'elle apporte un bénéfice substantiel au moins un critère sur 6 objectifs environnementaux, dont le changement climatique, mais aussi l'économie circulaire, la protection des ressources, la lutte contre la pollution, etc. Et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Deo l'a dit, ne pas causer de tort à ces piliers-là. Donc ça concerne quand même 70 activités, à peu près 93% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc voilà, qu'en est-il du point de vue du secteur public? L'idée qu'il y ait des activités déjà vertes, en transition, des activités de verdissement, c'est un sujet dans lequel on essaye de progresser au niveau européen. Et je voulais avoir ton regard là-dessus. D'autant que dans la nouvelle stratégie de la Commission européenne, on va étendre ce sujet-là, il est prévu d'étendre ce sujet-là aux enjeux sociaux. Donc ça va encore renforcer un peu la complexité du sujet. Et puis, il y a tout un volet sur la stabilité financière, mais là, je ne voudrais pas me substituer à la troisième table ronde sur laquelle ce sujet-là va être abordé, mais simplement juste dire un chiffre en termes de stabilité financière, donc vraiment d'évaluation du risque à l'échelle un peu systémique. Donc là, on est vraiment dans la dimension macro et pouvoir public. Il faut savoir que l'exposition, par exemple, du secteur des assurances au risque climat implique que le coût des sinistres va être multiplié par 6 dans un horizon très proche, d'ici 2050. Donc ça veut dire que le PDG d'AXA, il y a quelques années, avait dit que le changement climatique à 4 degrés ne serait pas assurable. Voilà, un coût des sinistres qui est multiplié par 6, ça veut dire qu'on va devoir augmenter les primes jusqu'à 200%. On va avoir un vrai problème aussi d'acceptabilité sociale, hein, de ce genre de choses. Donc on est dans la réglementation, elle a vraiment, pour parler de manière un peu familière, elle a du pain sur la planche, hein, de ce point de vue-là.
Voilà,
c'était
ma réaction
là-dessus. Alors, peut-être.
On en parlera après. Oui. Du coup, je vais répondre à d'abord le premier point, effectivement, sur les côtés des acteurs privés. Donc, effectivement, chaque acteur a ses contraintes et ses marges de manœuvre. Et du côté des acteurs privés, il y a effectivement des marchés très concurrentiels dans lesquels un acteur ne peut pas avancer seul et sans une action de régulation affirmée. Il y a un dilemme du prisonnier quelque part, donc une impossibilité de se mettre en mouvement. Et donc il y a effectivement ces contraintes-là et donc un besoin de régulation, notamment sur des secteurs dans lesquels effectivement des acteurs ne peuvent pas se mettre en mouvement seuls. Cependant, je pense qu'il y a bien ces deux niveaux, c'est le niveau de l'évaluation et ne serait-ce que d'informer les conseils d'administration, les DG, de ce que donnerait effectivement la performance de l'entreprise, étant donné les impacts climatiques tels qu'ils sont valorisés avec une valeur. Et là, je pense que c'est plutôt la valeur tutélaire qui est intéressante pour donner cette information. C'est déjà quelque chose qui permet, qui contribue à la mise en mouvement. Donc il y a bien ces deux niveaux-là, je pense, un niveau d'information, de responsabilisation, d'être conscient de ces impacts, mais après, effectivement, dans les jeux d'acteurs, il y a des contraintes et donc d'autres responsabilités, effectivement, des uns des autres, qui est important. Peut-être une idée qui me semble importante par rapport à cette question de la finance verte et puis peut-être des contraintes et de l'idée de responsabilité environnementale, c'est que peut-être une difficulté qu'on avait rencontrée pendant très longtemps, c'est qu'on avait très cloisonné les responsabilités. Les responsabilités étaient finalement trop étroites. Et actuellement, on a un élargissement des responsabilités. Alors certes, ça se chevauche, tout le monde n'a pas les marges de manœuvre qu'il peut pour pouvoir endosser la responsabilité d'eux, mais on le voit un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que là où on mesurait les gaz à effet de serre, les émissions seulement domestiques, on voit que la perspective de l'empreinte carbone, par exemple, est beaucoup plus affirmée désormais. On a aussi une reconnaissance du besoin de désectoriser l'action publique, etc. etc. Donc il y a de ce côté-là des partages de responsabilités subtils et dont il est absolument indispensable qu'ils soient bien compris et que chacun justement endosse les marges de manœuvre dont il dispose, qui vont permettre aux autres aussi de se mettre en mouvement. Je peux répondre sur la taxonomie maintenant, mais peut-être d'abord Thierry.
Non, non, j'allais rajouter sur la taxonomie, un peu dans le même sens que, et ça fait partie de la question. Bon, d'abord, pour avoir beaucoup participé aux consultations sur la taxonomie, malgré la bonne direction, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. D'abord parce qu'une taxonomie verte sans taxonomie sociale, c'est compliqué à appliquer. On l'a vu, on le voit déjà dans la traduction de cette taxonomie dans un certain nombre d'institutions européennes, comme la Banque européenne d'investissement, qui finalement, quand elle investit en dehors de l'Union européenne, se retrouve face à des difficultés de choix. Et l'exemple classique que je prends, c'est quand le Sénégal découvre un gisement de gaz et que la Banque européenne ne peut plus l'aider à développer son économie, à s'industrialiser parce que sa politique est conforme à la taxonomie et ne lui permettrait pas finalement d'être dans cette transition, c'est compliqué. Donc il y a à la fois le sujet du social et des autres sujets, et puis aussi le sujet de la transition. C'est-à-dire que quand on est dans un monde un peu noir ou blanc, ou vert et noir, je ne sais plus quelles sont les couleurs, mais c'est très compliqué à appliquer à l'économie réelle, dans la mesure où le besoin fondamental aujourd'hui des PME, des entreprises, c'est un accompagnement pour effectuer cette transition. On a un stock d'émissions sur place qu'il faut transformer. On ne part pas d'une page blanche où on peut décider d'éliminer ce stock demain matin. Et donc ça, c'est et par rapport à la cohérence des politiques publiques, une fois qu'on a classifié des activités comme non vertes, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça devient des actifs. Est-ce qu'on fait comme la France où on vend discrètement à des investisseurs peu scrupuleux nos usines de production charbon? ça ne fait pas baisser les effets des gaz à effet de serre. Ça transfère simplement d'une main vertueuse à une main non vertueuse un actif polluant. Donc ça, ce sont des sujets très concrets, mais sans lesquels on ne pourra pas avancer et utiliser le plein outil de la taxonomie. Je vous ai un peu pollué le truc, mais c'était pour ça.
Peut-être aussi une réaction complémentaire. Donc la taxonomie, effectivement, c'est une classification plutôt binaire, ou en tout cas, je ne sais plus s'il y a deux niveaux seulement, ou s'il y a finalement, et maintenant, il y en a trois. Et ça reste une classification assez sommaire. Et notamment, une réflexion qui me semble intéressante à avoir sur cette taxonomie, c'est dans quelle mesure est-ce qu'elle est cohérente avec les objectifs des politiques publiques, notamment dans le champ environnemental. Et finalement, c'est important de voir que la légitimité sur certains arbitrages va découler de cette adéquation, parce qu'il y a certains choix qui relèvent, dont la légitimité relève de la sphère politique. C'était d'ailleurs le sens du propos de Milton Friedman lorsque il évoquait cette idée de justement du fait que l'entreprise potentiellement devait aussi laisser l'arène démocratique jouer son rôle. Et donc il y a un questionnement sur est-ce que les choix sont conduits de manière à ce qu'ils aient toute la légitimité qu'ils ont. Et par exemple, pour donner un exemple, et puis ensuite une interrogation, il y a un débat fervent sur la question du nucléaire dans le cadre de la taxonomie. Et finalement, c'est une question, est-ce que c'est une question européenne ou est-ce que c'est une question du ressort des États membres? Et dans ce cas, pourquoi vouloir uniformiser à cette échelle-là? Donc la contextualisation qui a été évoquée, on peut par exemple l'illustrer sur cet exemple-là, de manière assez concrète aussi. Et une question que je me pose un peu personnellement, mais du coup, c'est cette taxonomie qui vise à élargir finalement son champ, effectivement peut-être au champ social, ben, finalement, est-ce qu'elle est pleinement cohérente avec, par exemple, les objectifs de développement durable, qui sont ce cadre d'objectifs des politiques publiques pleinement intégrateurs de l'ensemble de ces problématiques? Donc ça, c'est je dirais, plus une question qu'une réaction, mais je pense que voilà, il y a cet enjeu de bien s'appuyer sur les objectifs qu'élaborent les acteurs publics pour pouvoir penser ces instruments d'évaluation.
La réponse, c'est plutôt non. Hein. À votre question.
Ouais. Bien, nous avons une série de questions qui proviennent de la salle. Je vais les poser. Je les ai regroupées en plusieurs parties. La première concerne la normalisation. Quand on observe les pratiques des fonds à impact, on se rend compte qu'on a des pratiques extrêmement diverses. Chaque fonds a sa méthodologie, ses critères. Est-ce que vous pensez que, dans un temps court, des formes de normalisation peuvent s'imposer? Et si oui, lesquelles? Deuxième type de question. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou un autre, le développement de la finance à impact ne va pas se poser à travers la question de la réduction de la performance financière? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va quand même être obligé de se poser la question d'accepter des projets qui auraient une performance environnementale supérieure au détriment de la performance financière? C'est-à-dire que c'est un sujet que vous avez peu traité. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où ces deux problématiques arrivent à un choc frontal? Troisième type de question, vous l'avez aussi évoqué, mais vous avez parlé de la taxonomie, mais est-ce qu'il y a des bases de données, est-ce qu'il y a des outils qui sont quand même partagés de manière uniforme par l'ensemble des acteurs du marché? Et puis, dernière question que M. Léo avait évoquée rapidement en début de séance, sur la place d'un jeune ingénieur dans cette finance verte, si vous aviez des idées pour les gens qui suivent cette conférence, en termes d'emploi, en termes de trajectoire, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 20 ans et que vous étiez ingénieur dans une école française ou internationale? Merci.
Je vais peut-être commencer par la question 1 et 3, en fait, parce qu'elles sont liées. Sur la question de la normalisation des données, des bases de données, des outils partagés. Aujourd'hui, c'est un débat hyper important, cet aspect de normalisation de l'information extra-financière. L'objectif c'est des débats, c'est de savoir s'il va émerger un cadre unifié et global à l'échelle internationale, à l'échelle des États. On peut voir les choses de deux manières, et puis je serais vraiment très, très content d'avoir vos points de vue là-dessus. La normalisation de l'information extra-financière d'un point de vue, on va dire, un peu strictement en base de données, etc., moi, je la vois comme un nouvel enjeu beaucoup plus global de leadership géopolitique. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'opposition entre les Américains et les Européens. Sur ce sujet-là, la finance durable, en fait, il faut arrêter d'avoir une vision un peu angélique. Je vais être un petit peu provocatrice, mais tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On va y arriver. La taxonomie européenne va nous donner une liste d'activités. On va les suivre. Et puis, potentiellement, les acteurs publics vont aussi s'y mettre et ils vont essayer de s'aligner avec ça, etc. En fait, le débat là-dessus, c'est vraiment un problème de leadership. C'est pas nouveau. C'est un problème qu'on connaît depuis des années. C'était déjà le cas lors de la première crise, enfin, de la précédente crise économique et financière, où les Européens, les Américains se faisait une concurrence sur le leadership environnemental. Et là, c'est le leadership sur la question des données. Derrière, il y a un leadership politique, mais il y a aussi un leadership stratégique, et puis un leadership financier, tout simplement financier, en termes de qui va être le fournisseur de données ultime vers lequel tout le monde se tournera. Et c'est vrai que la diversité des approches des États en matière de gouvernance des entreprises, de responsabilité des dirigeants, de cadre réglementaire, la fragmentation de la réglementation, c'est un vrai sujet. Et là, pour le coup, moi, je sors un petit peu de cette vision un peu positiviste, entre guillemets, de la finance durable, parce que derrière, il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. On a vu une recomposition du paysage de la notation extra-financière ces dernières années, avec le rachat des leaders européens, l'entrée au capital de Moody's, d'Envigeo Eris, etc., qui montre qu'il y a une vraie bataille qui est prise très au sérieux à l'échelle géostratégique. Alors, en Europe, on est évidemment bien conscient de ça, et la Commission européenne veut prendre le leadership stratégique aussi, hein, c'est une vraie bataille. Elle a chargé l'EFRAG, qui est une institution qui doit homologuer les normes comptables européennes pour faire des propositions sur l'information extra-financière. Elle a confié cette mission à Patrick de Cambourg, le président de l'autorité des normes comptables, parce qu'il était, il avait été auteur d'un rapport qui avait été très connu en 2019 pour que l'Europe soit la terre d'élection de l'information extra-financière. Donc voilà, l'Europe s'est vraiment emparée du sujet. Des acteurs privés s'emparent aussi du sujet. Je veux dire, un acteur comme BlackRock qui s'associe avec Bloomberg, l'un des leaders mondiaux de la fourniture d'informations, publie au même moment que la Commission européenne nomme cette EFRAG en charge de ces sujets-là une vision commune pour l'émergence d'un standard international. On a vraiment une bataille de leadership qu'on retrouve à tous les échelons de l'information extra-financière en Europe et aux États-Unis. Et c'est assez intéressant de voir ce retour du géopolitique à travers un sujet qui peut paraître comme un petit peu anodin et puis un petit peu, on va dire, idéaliste. Quoi. On est loin de la bataille peut être parfois un peu à couteau tiré. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des parts de marché financières à prendre sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Enfin, je serais vraiment curieux d'avoir vos points de vue là-dessus. Ouais,
peut-être je peux parler un peu de l'ambition de la place de Paris, et qui travaille notamment avec Patrick de Cambourg sur ce sujet, sur l'impact notamment, et pourquoi le gouvernement, à travers Olivia Grégoire, a choisi de s'associer à Finance for Tomorrow et à Paris Europlace pour travailler le sujet d'impact. D'abord pour unifier un corpus de définition. Parce que les fonds à impact, alors c'est vrai qu'historiquement, c'est plutôt venu de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a des méthodologies différentes. À la fin des fins, la finance durable, ça ne doit pas exister. C'est la finance qui doit financer ou faciliter une économie durable. Donc toute la finance doit devenir durable. Hein. Et c'est l'enjeu. Et cet enjeu passe par ce corpus de définition, au-delà des principes d'intentionnalité sur l'impact ou de la mesurabilité, mais aussi par la mise à disposition des données. Donc là, la philosophie française et européenne est plutôt de l'open data pour les données extra-financières, avec des données qui découlent de ce corpus de définition, notamment sur l'impact. Et c'est un enjeu de souveraineté, ça on est tout à fait d'accord, mais il faut déjà pouvoir vendre quelque chose avant de s'imposer. Donc le travail qui se fait un peu à part de course en ce moment, c'est vraiment au niveau de la place de Paris d'essayer de standardiser, entre guillemets, je n'aime pas trop utiliser ce mot parce que ça fait peur à tout le monde, ce type de données, les méthodos, et ensuite élargir ça au niveau européen et le porter pour que l'Europe, en tout cas l'Union européenne, soit un leader en la matière et ne perde pas son leadership. Peut-être pour répondre à la deuxième sous-question, l'arbitrage impact financier. L'arbitrage impact financier, aujourd'hui, on le fait quand il est vraiment nécessaire. On le fait avec ce qu'on appelle aujourd'hui le blended finance. Et c'est là aussi où les partenariats sont importants dans la recherche d'impact. Et vous l'avez à tous les niveaux, que ce soit ce que peut faire la BPI ou la BEI à travers les instruments multilatéraux ou bilatéraux au sein de l'Union européenne. On arrive à baisser finalement le coût des financements, allonger leur maturité grâce à un mélange d'argent public-privé, de garanties publiques et d'argent privé, pour justement créer l'impact suffisant en matière de durabilité, sans pour autant impacter de façon très négative les flux pour les investisseurs privés. L'OCDE a un rapport magnifique là-dessus, ça fait des années qu'on y travaille, je pense qu'on a tous les outils et les solutions, et c'est ça qui vient finalement renforcer le sujet d'un arbitrage éventuel. C'est pour ça aussi qu'on a des politiques européennes qui demandent de faire levier sur l'argent privé, parce que c'est le mix des deux qui arrive au meilleur impact. Là, je ne peux pas vous faire la leçon sur le Fonds européen stratégique d'investissement, sur les outils INOFIN de la Commission européenne qui permettent de faire des choses comme Northvolt, parce que le risque et les retours étant inatteignables pour des investisseurs privés tout seuls, le mix des deux a permis cette réussite. Et la dernière question sur un jeune ingénieur. Je pense que d'abord, pour qu'un jeune ingénieur soit utile dans la finance durable, c'est d'abord qu'il ne faut pas qu'il oublie de rester un ingénieur. Et rester un ingénieur, c'est être l'intégrateur de problématiques totalement différentes qui aillent de problèmes structurels, physiques, d'aménagement du territoire, de compréhension de la qualité de l'air. Enfin, je prends des exemples les plus variés, mais aussi des compréhensions du monde économique et compréhension des facteurs financiers et des processus financiers, de pouvoir intégrer tout ça pour pouvoir justement intégrer cette compréhension du monde qu'a l'ingénieur dans l'utilisation de la finance. Parce que la finance, in fine, à impact, ou la finance durable, c'est simplement une finance avec une mission qui est celle de soutenir une économie à bas carbone durable. Il faut revenir aux fondamentaux. La finance durable n'a pas de fin en soi. Donc c'est pour ça qu'un jeune ingénieur y a toute sa place, mais avec ses capacités d'ingénieur et pas ses capacités éventuelles de financier. Ça vient après. Et ce n'est pas le plus utile, en tout cas pour apporter cet aspect d'impact et de durabilité dans la finance.
Alors peut-être pour compléter, rebondir là-dessus, puis ensuite j'irai sur une question qui est qui s'est posée en tout cas au moment où on a rédigé l'article sur la normalisation. Sur le rôle de l'ingénieur, j'aurais un petit complément, je pense, c'est de dire qu'on est face à des problèmes qui sont complexes, où les méthodes, elles foisonnent, et la force de l'ingénieur dans cet univers, c'est d'être capable de les comprendre, mais aussi avec le recul suffisant pour voir leurs défauts, ce qu'elles disent, ce qu'elles ne disent pas, et être capable d'agir avec discernement dans ces contextes-là. Et je pense notamment à ça, parce que lorsqu'on regarde le rapport sur les méthodes d'alignement climat, qui a été la revue qui avait été faite par l'Institut Louis Bachelier, une des conclusions, c'est bien ça, ça foisonne. Il y a beaucoup, beaucoup de méthodes, et finalement, elles ont des conclusions très variées et des niveaux de robustesse qui peuvent être extrêmement, extrêmement variés. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une force pour les ingénieurs et quelque chose sur lequel, effectivement, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur ces compétences. Alors peut-être pour en venir du coup, et ça permet d'illustrer justement sur la normalisation. Donc il y a vraiment cette question effectivement de est-ce qu'il faut normaliser les méthodes d'évaluation, notamment d'évaluation socio-économique. Et lorsqu'on a rédigé donc l'article qui est paru dans Transition, on a eu un débat avec un cadre d'une entreprise publique qui du coup était face aux deux contraintes, ou en tout cas aux deux univers, un peu comme j'imagine vous l'êtes à Meridiam. Et ce qu'il disait, il y a finalement de l'intérêt dans les deux. Alors nous, on voyait bien du côté des acteurs publics l'intérêt de normer les choses pour que ça soit transparent, pour que ça soit non manipulable et que ça puisse être comparé, notamment. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir des méthodes qui soient relativement normées. Cependant, ce que nous disait cette personne, c'est que du côté des acteurs privés, il y a finalement aussi de la place pour l'innovation, et on a besoin d'innovation sur ces méthodes actuellement, et donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre justement la normalisation et la place laissée à l'innovation, à l'essai, dans des démarches où globalement les acteurs, les régulateurs seraient plus dans des démarches bottom-up, où constatant les choses qui peuvent être faites, finalement affinent les lignes directrices qui peuvent imposer. Et en fait, je pense que le curseur, il est là, il est sur les lignes directrices, sur cette idée de ligne directrice. C'est-à-dire que même quand on regarde le guide de France Stratégie de 2019, finalement, tout n'est pas extrêmement normé. Il y a des choses qui restent relativement ouvertes parce qu'on ne sait pas faire, et vaut mieux dans ce cas-là, on ne sait pas comment bien faire, et donc dans ce cas, vaut mieux laisser la marge de liberté plutôt que de fixer quelque chose qui soit complètement dans le faux, donc de laisser la possibilité. Mais ce besoin de ligne directrice, il est tout de même important. Je dirais, s'il y a quelques idées qui me paraissent ressortir de nos échanges, il y a notamment l'idée d'être dans une logique notamment de compatibilité, de bien comprendre finalement les objectifs qu'on poursuit, l'ambition qui s'impose à nous collectivement du fait par exemple des défis écologiques auxquels on fait face, et de s'interroger sur comment évaluer l'adéquation de l'action d'un acteur, d'une entreprise, d'une organisation publique avec ce niveau d'ambition collective. Je pense que c'est globalement un point relativement fort qui ressort de l'échange, et donc un exemple de potentiellement de ligne un peu directrice, ou en tout cas d'éléments qui seraient productifs à suivre collectivement.
Peut-être deux minutes sur la question de la réduction de la performance financière ou pas. C'est une très très bonne question. Moi, j'avais choisi de commencer la table ronde en n'en parlant pas, en parlant de la performance extra-financière, parce que, justement, historiquement parlant, en fait, la littérature, je vais reprendre un peu ma casquette un peu académique sur ces sujets-là, mais la littérature s'est énormément focalisée sur est-ce que l'investissement socialement responsable, c'est plus ou moins performant que l'investissement conventionnel. Et a perdu peut-être un peu de son âme, en fait, cette littérature-là. L'objectif de l'ISR, de l'investissement impact, c'est effectivement de démontrer qu'il y a bien un impact extra-financier, indépendamment du financier, donc potentiellement aussi à la baisse, même si le financier doit baisser, c'est pas ça l'objectif premier. Pourquoi la littérature a pas été sur cette voie-là pendant des décennies? Parce qu'en fait, historiquement parlant, on a un mouvement qui, dans lequel on a des gens qui investissent le secteur de la finance traditionnelle en disant il faut intégrer maintenant l'extra-financier, il faut faire l'environnement, du social et de la gouvernance. Et donc, ils étaient en quête de légitimité. Rendre l'ISR mainstream, c'est le rendre légitime aussi aux yeux de la communauté financière classique. Donc, ils ont employé le langage, les méthodes et les outils de la finance classique pour démontrer que l'ISR n'est pas moins performant, voire qu'il est surperformant par rapport à l'investissement classique. C'est un peu ça l'historique, on va dire, la littérature là-dessus. Mais si je vais essayer de faire simple et bref, si on veut avoir un argument purement théorique, il y a deux théories possibles. Soit c'est du mispricing, soit on a effectivement un marché qui n'existe pas pour le carbone, pour le prix du carbone, et donc les investisseurs, ils doivent corriger ça, il y a une mauvaise évaluation des actifs quand on ne prend pas en compte les enjeux environnementaux parce qu'il manque un marché, il y a une défaillance de marché, soit il n'y a pas d'effet, ou soit il y a même une valeur sociale supplémentaire à l'intégrer. Et là, la réponse, elle peut être que empirique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des défaillances de marché, il y a aussi des défaillances des gouvernements. On n'a pas de prix du carbone qui soit appliqué, on n'a pas de taxe carbone partout de manière uniforme, etc. Donc il y a bien place pour les investisseurs privés à le faire. Maintenant, si vous tenez le discours à un investisseur privé qui va détruire sa performance en faisant de l'extra-financier, il n'ira pas. Donc on a une espèce de paradoxe inhérent à la question. Moi, ma réponse en tant que chercheur, c'est de dire la réponse, elle est dans les travaux de recherche empiriques. Prenons les données, regardons ce qui se passe. Est-ce qu'une entreprise qui intègre correctement les risques environnementaux et sociaux, est-ce qu'elle est capable de retirer un profit supplémentaire ou pas, ou est-ce qu'elle doit sacrifier du profit ou pas? L'argument économique du sacrifice de profit, c'est de l'altruisme, en fait, mais c'est aussi de l'impact. L'argument du mispricing, c'est de dire, attendez, elle était un peu myope, l'entreprise, jusqu'à présent, en lui donnant le bon signal, en fait, elle peut faire mieux. Et la question, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul signal, puisqu'il y a plusieurs dimensions, et donc, il n'y a pas une réponse unique, en fait, à cette question-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment éclairé le débat, mais en tout cas, j'essaie d'apporter une lumière un peu
de choix, travaux. Il y a un choix un peu de la foi, en fait. Aujourd'hui, je pense que l'opposition, on est plutôt sur le mispricing, finalement. Il y a quand même, et c'est pour ça que les données sont importantes aussi, parce que les données mises en parallèle avec les données financières vont permettre de vraiment déterminer les corrélations à terme. Alors il y a un exercice qui est fait depuis depuis 5-6 ans par EDEC Infra sur les classes d'actifs infrastructures, en y mettant celles qui sont vraiment traitées dans une méthodologie ESG ou impact par rapport à l'infrastructure, soit cotée ou non cotée. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de données, mais tout ce qu'on a à peu près réussi à sortir, c'est la moindre volatilité finalement de la performance financière quand on traite les sujets avec le caractère social et environnemental. Mais il y a besoin, donc la collecte des données avec la collecte des données financières aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut les deux, permettra de mieux déterminer ce lien pour justifier a posteriori ce mispricing. Pour le carbone, c'est vrai, mais pour les autres, c'est très intuitif et on est encore loin d'avoir suffisamment de méthodologies de mesures quantitatives pour y arriver. Donc il faut faire de l'empirique et de la statistique. Mais les financiers adorent ça.
Vous l'avez évoqué dans vos débats, mais concernant la problématique du point de vue de la puissance en tant qu'État, du point de vue de la souveraineté, est-ce que vous pensez que aujourd'hui ces questions sont suffisamment liées? Est-ce que vous pensez que les États analysent ou traitent ces problématiques en ayant bien pris en compte les questions de souveraineté nationale, d'indépendance nationale? Quel est votre sentiment sur la relation entre transition énergétique et souveraineté? Est-ce pour vous suffisamment traité, analysé et pris en compte? Ça sera la dernière question de la salle.
Moi, j'ai l'impression rapidement que c'est beaucoup le cas en France, c'est beaucoup le cas en Europe. Hein. Souvenez-vous qu'il y a un an, au début du Covid, il y a eu 2 semaines de questionnement sur est-ce que c'est build back better ou est-ce que c'est on revient à faire pire pour rattraper le choc économique. Et la réponse a été assez claire et nette, à la fois au niveau français mais au niveau européen, qu'une économie à reconstruire ne pouvait être que verte et durable. Et la question de la transition a intégré, in fine, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le fait d'émettre 200 à 300 milliards d'euros par la Commission européenne, c'est une révolution et qui ne se fera que sous l'angle de ce qu'ils appellent EU Next Gen, mais qui est totalement matinée de transition écologique. Voilà. C'est une révolution qui va transformer la Commission, parce qu'elle va devenir un émetteur, l'un des plus gros émetteurs en euros en tout cas. Ça me fait dire que la réponse est oui et totalement. On peut toujours mieux faire, mais là c'est un problème plus français, c'est qu'après il faut faire dans le concret. Voilà.
Oui, moi je pense que le sujet de souveraineté a été quand même pris au sérieux au niveau européen et c'est pas un hasard qui est vraiment concomitance entre la nouvelle stratégie de la Commission européenne en matière de finances durables, le plan d'investissement, comme l'a dit Thierry, sur les marchés des obligations vertes avec le premier emprunt communautaire de plusieurs centaines de milliards d'euros qui va être émis là-dessus. Il y a un vrai risque de greenwashing derrière les obligations vertes. Hein. Et donc, il y a une vraie conscience de ce sujet-là, de ne pas laisser ces parts de marché-là totalement à l'abandon. Quoi. Au contraire, on observe déjà sur la question de l'impact, hein, c'était comme le sujet de la table ronde aujourd'hui. Est-ce que l'investissement dans les obligations vertes a vraiment un impact environnemental ou pas? C'est un sujet majeur compte tenu des sommes qui sont dirigées vers ces marchés-là. Donc voilà, j'ai le sentiment que cet objectif de souveraineté, de garder la souveraineté, est pris en compte à l'échelle européenne. On le voit bien aussi aux États-Unis. Donc est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est un autre débat.
Et le commissaire européen est cet après-midi à Paris pour parler au marché du même sujet.
Écoutez, il est 15h15. Je voudrais remercier nos trois intervenants pour la très grande qualité des débats, pour leurs apports. Je crois qu'on a rempli pleinement cette table ronde avec des éléments extrêmement intéressants pour les gens qui nous suivent. Donc merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette table ronde et on se retrouve à 15h15 pour la table ronde, 15h30 pardon, pour la table ronde numéro 2. Merci encore.
Merci.